Salut Martine.
Allô Pascal, comment ça va aujourd'hui?
Ça va bien, toi?
Devine, ça va vraiment très très bien parce qu'aujourd'hui, on a notre deuxième invitée, Geneviève, qui est coordonnatrice du travail de rue Le Trajet de Terrebonne. Allô Geneviève,
Bonjour.
comment ça va?
Ça va très bien, très contente d'être avec vous aujourd'hui.
Oh yeah!
Ben, je tiens à te dire un gros merci d'avoir accepté notre invitation là, tu sais, pour nous, c'était vraiment important. Donc, j'aimerais ça pour que tu te présentes un petit peu, que tu expliques brièvement ton parcours professionnel puis scolaire. Tu sors
Ben,
d'où, Geneviève?
je sors d'où? En fait, j'étudie en éducation spécialisée. J'ai pas tout à fait réussi mon diplôme, là. Il me manque un petit cours, là, mais bon, ça a l'air que ça a servi pareil dans la vie. Et j'ai essayé plein de choses en intervention. J'ai fait un stage dans un CALACS. J'ai travaillé dans une maison de transition avec les personnes handicapées. C'est ça. Fait que j'ai fait plein de choses et à un moment donné, le travail de rue est arrivé dans ma vie. Fait qu'en 2002, j'ai été engagée comme travailleuse de rue à Repentigny. Fait que mon parcours a commencé là et ça fait maintenant 20 ans que je suis en travail de rue.
Wow.
J'ai fait 8 ans en travail de rue ici à Repens. Moi, je m'étais toujours dit que je resterais pas longtemps à un travail parce que je me tannais vite. Jusqu'à temps que je découvre le travail de rue. Fait que c'est ça, fait que j'ai été 8 ans ici à Repentigny. Ensuite, j'ai fait un an en milieu rural qui est à Saint-Gabriel-le-Brenda, où j'ai commencé à goûter à la coordination. Fait que parce que je faisais moitié travail de rue, moitié coordination. Par la suite, j'ai resté là un an. Et ensuite, j'ai coordonné ce qu'on appelle le regroupement du travail de rue en Montérégie. Donc, je coachais des travailleurs de rue, un petit peu des cordeaux en soutien, jusqu'à temps que je revienne dans ma région et que on m'offre en fait qu'on m'offre que je vois passer l'offre d'emploi pour la coordination du trajet qui était un nouvel organisme qui débutait à Terrebonne. Fait que c'était mes voisins de Repentigny pendant un bout, il y avait eu un organisme de ce côté-là par le passé et malheureusement l'organisme avait fermé ses portes pour retrait du financement. Donc les organismes ont reparti un nouvel organisme de travail de rue. Fait que c'est là que je suis arrivé à la coordination. Même si je suis à la coordination, je suis toujours proche du terrain. J'aime le terrain. C'est toujours un plaisir d'accompagner. J'ai 4 travailleurs de rue au trajet. Fait que c'est toujours un plaisir de les accompagner dans la rue puis de continuer à exercer ce beau métier-là.
OK, fait
C'est
que
ça.
déjà un gros 20 ans d'expérience dans ce domaine-là. Puis là, de ce que j'apprends aussi, c'est que ça n'a pas été toujours uniquement sur le territoire de la Lanaudière, t'es aussi allé en Montérégie.
Oui, c'est bien
OK.
ça.
Si on y va là, de façon un petit peu plus précise, là, le travail de rue, ça consiste en quoi exactement, là? T'sais, à quoi peut ressembler le quotidien d'un ou d'une d'un travailleur ou d'une travailleuse de rue?
Ben, je vais commencer par le début. Un nouveau ou une nouvelle travailleuse de rue, quand ça arrive en poste, son mandat, c'est d'aller créer des liens sur le terrain. Fait que c'est pas simple, mais ça passe par observation. Ça passe par l'observation des lieux publics. Un travailleur de rue, ça va dans les parcs, dans les bars, dans les lieux de squat, dans les différents organismes. Ça fait des petites tournées d'organismes aussi. Fait que c'est tous des lieux où un travailleur de rue est propice à créer des contacts et après créer des liens. L'objectif premier du travailleur de rue, c'est pas d'aller intervenir à tout prix. L'objectif, c'est d'aller créer un lien significatif avec toute personne en rupture sociale. C'est très large, la rupture sociale. Hein? Fait que ça s'adresse à du 0,99 ans. Fait que l'idée, c'est d'essayer de connaître les personnes qui fréquentent les différents milieux que j'ai nommés tantôt. Et ça passe souvent par comment ça a été ta journée aujourd'hui. Ça passe souvent par une conversation tout à fait banale pour justement essayer de créer le lien et de voir après, est-ce que la personne a besoin d'un coup de main pour quelque chose dans sa démarche. Fait que ça peut, un travailleur de rue peut être en lien avec quelqu'un sans nécessairement faire un accompagnement. sans faire une référence, sans faire, parce que souvent, la base, c'est l'écoute. Fait que le travailleur de rue va écouter d'abord et au fur et à mesure des conversations et de la création du lien, là, il va avoir probablement des choses qui vont ressortir sur certaines difficultés que la personne vit, soit par rapport à sa consommation, par rapport à sa situation précaire au niveau du logement, par rapport à des relations sexuelles à risque, par rapport. Il y a plein de choses qui peuvent être abordé avec un travailleur de rue. Nous, on est des généralistes. Donc, il y a plein de choses qui peuvent être abordées. Et à partir du moment où la personne a besoin de soit se sortir de sa situation ou de travailler sur sa situation, bien là, à ce moment-là, il y a une référence vers une ressource qui peut l'aider. Il y a aussi un accompagnement qui est possible. Fait que ça, c'est le volet plus s'il y a une problématique, on y va. Puis on fait aussi toute la distribution de matériel préventif. Fait que prévention ETSS, prévention au niveau des transmissions, au niveau de la consommation de drogue, tout ça. Bon, fait qu'on a plein de matériel là-dessus. Fait que ça fait aussi partie de ce qu'on distribue et ce qu'on regarde.
Que vous
Ouais.
devez, c'est que vous avez sur vous en permanence
Oui.
lorsque vous travaillez ou est-ce que les personnes doivent se rendre, par exemple, à l'organisme pour s'en procurer?
En fait, la plupart, c'est très rare que quelqu'un qui débarque à notre organisme, je vais le dire comme ça. Les travailleurs vont plus souvent dans la rue. Fait que c'est sûr qu'on fait de la livraison. En fait, on a un bureau qui nous permet d'amener des personnes s'ils ont besoin de faire des démarches ou encore d'entreposer notre matériel. On va le dire comme ça. Fait que c'est très, très rare que les personnes débarquent d'eux-mêmes à notre organisme. La plupart du temps, ils reçoivent une livraison de matériel s'ils en ont besoin. Parce que les travailleurs, soit qu'ils en ont déjà un petit peu sur eux autres, sauf qu'on a tellement de matériel, c'est difficile de garder quelques trousses de naloxone, plusieurs condoms, des seringues, des pipes à crack, des pipes à cristal, des bandelettes. On a aussi des bandelettes test pour la drogue. Fait que c'est difficile de traîner tout ça dans le sac à
Ah, ça,
dos.
c'est-tu l'affaire des pour le fentanyl et
Oui,
tout,
c'est
là?
ça,
OK,
c'est ça.
OK.
Des bandelettes test de fentanyl pour les consommateurs. Fait que c'est ça. Fait que c'est difficile de traîner tout ça dans le sac à dos. Ça prend de la place. Ça prend des gros sacs à dos, disons, pour traîner le tout. Fait que c'est ça. Fait qu'habituellement, là, quand il y a des demandes, les travailleurs, ils passent au bureau, ils vont chercher les trucs qu'ils ont besoin, puis ils vont les livrer directement dans le milieu, dans les appartements ou dans la rue. Si la personne vit dans la rue, ça peut être une livraison dans la rue.
Je t'écoute parler,
Oui.
là, on sait un peu plus c'est quoi, mais en même temps, je me dis, c'est quoi un horaire? Parce que ça doit pas être typique, hein? Je veux dire,
C'est très atypique,
où est-ce que le monde se
parlons
tienne,
comme ça.
puis tout ça. Donc, ça a l'air de quoi un horaire, là, d'un travailleur de rue?
Je dirais que ça dépend du travailleur et ça dépend des milieux qu'il va rejoindre. J'ai une travailleuse de rue, deux en fait, deux travailleuses de rue qui font beaucoup les écoles. Fait que c'est sûr qu'elles ne seront pas sur le terrain à 2 h du matin. Elles vont être sur le terrain à peu près sur l'heure du dîner, aller se promener sur le terrain de l'école. On a d'ailleurs rencontré les directions d'école, tout ça, pour être capable de naviguer sur le terrain et de voir aussi c'est quoi la limite. Parce que c'est sûr que dans notre distribution de matériel, s'ils nous disent non, vous ne distribuez pas de matériel sur le terrain, il faut quand même respecter leur demande. Fait que j'ai des travailleurs qui sont un peu plus de jour parce qu'ils sont plus jeunesse, plus dans les écoles. Et j'ai des travailleurs qui sont un peu plus de soir parce que c'est les bars, on a un projet d'exploitation sexuelle. Donc, c'est sûr que ma travailleuse de rue qui s'occupe du projet d'exploitation sexuelle est beaucoup plus présente à des heures où propice pour rencontrer des filles qui font de la prosto. Fait que c'est ça.
OK.
C'est ça. Puis au niveau de l'approche, c'est comme nous en maison d'hébergement, ben, t'sais, notre approche majeure, c'est l'approche féministe et de plus en plus intersectionnelle. Dans votre travail, vous, quelle approche là, qui est comme dominante, là?
Ben, c'est sûr qu'à la base, on a une approche humaniste, ça reste. Mais on a aussi une approche de réduction des méfaits. Ça, c'est le principal mot là, quand on parle d'approche en travail de rue. La réduction des méfaits, c'est dans sa définition simple, c'est de réduire les risques associés à la santé. Justement, en exemple, en distribuant du matériel sécuritaire. Fait qu'on sait, par exemple, que les personnes consomment. On n'est pas là
Faire la
pour faire la
morale.
morale, pour s'arranger pour qu'ils cessent leur consommation, pour les référer à tout prix vers une désintox. On n'est pas là pour ça. On est là pour être présent dans le milieu et s'arranger pour que ces personnes-là consomment de façon sécuritaire et qu'ils ne se transmettent pas des différents ITSS ou ce qui ne se font pas d'infection s'ils s'injectent, tout ce qui ne se font pas. T'sais. Fait
Fait que
que.
sans leur imposer une marche à suivre ou leur suggérer fortement, il y a quand même un volet
Oui.
sensibilisation.
C'est suggestion. C'est suggestion, c'est jamais imposé. On n'est jamais dans l'imposition, on n'est jamais dans cette philosophie-là. C'est vraiment une philosophie de suggérer, de sensibiliser. En même temps, ils sont libres de leur choix. Ce qui est important de retenir en travail de rue, c'est le respect du rythme et le respect du choix de la personne. C'est sûr que nous, quand on se met dans les sujets d'un travailleur de rue qui voit un utilisateur, exemple, de drogue injectable qui réutilise les mêmes seringues, qui ça affecte sa santé, c'est sûr que c'est difficile, mais en même temps, on est dans le respect de son rythme. On est dans le respect de ses choix. Fait que même si on sensibilise, même si on explique que c'est dangereux pour lui,
Ouais, ils
au bout de la
savent,
ligne, il
là.
va faire ce qu'il veut. T'sais, c'est ça. Fait que nous, l'idée, c'est d'être présent. L'idée, c'est d'être présent, c'est d'être là, de pas trop faire la morale, de pas trop insister, de pas trop. Mais d'être là. D'être là, puis lancer des petits messages de temps en temps. Puis tout ça se passe dans le lien significatif. À quel moment on peut se permettre de dire, ben là, tu scrapes ta santé, là. Là, ça va pas bien, là. T'sais, à quel moment on peut se le permettre de se le dire? À quel moment on peut aborder certains sujets? Ben, tout est dans le lien. À partir du moment où on sent que le lien est assez solide, ben, on peut aller vers un petit peu de confrontation, un petit peu de sensibilisation. Mais ça se fait pas au début. Parce qu'au début, l'importance, c'est qu'ils nous fassent confiance.
Ça me fait penser.
Oui.
Parce que là, on parle de confiance,
Oui.
de lien, de respect du rythme. Ça prend du temps, tout ça. Dans un épisode précédent, moi puis Pascal, on a abordé justement le sujet d'une personne de confiance. Une personne de confiance, justement, ben, il y a des étapes avant qu'on puisse considérer. Donc, avant qu'on puisse considérer le travailleur de rue comme une personne de confiance, tantôt tu nommais un nouveau travailleur de rue qui arrive, combien de temps ça peut lui prendre avant d'être capable de dire j'ai des liens dans d'où est-ce que je me tiens
Avec certaines
avec les
personnes.
personnes, puis parce que tu crées pas un lien, dire moi je vais aller au bar là, puis la personne va me raconter sa vie, puis
Non.
je vais être disponible, ça marche pas de
Non, ça prend plus de temps que ça.
même,
Ben, en fait, il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps prédéterminé parce que ça va dépendre de la personne, ça va dépendre de l'affinité entre le travailleur et l'individu qu'il rencontre. Il n'y a pas de temps. Ce qu'on considère, par exemple, moi, quand j'engage un nouveau travailleur de rue, pour que ce soit efficace, pour qu'il soit bien implanté dans différents milieux, moi, je pense que ça prend en moyenne 2 ans. Fait que quand j'engage un travailleur de rue, je veux m'assurer qu'il va être avec moi pour 2 ans. Et quand je vais chercher du financement aussi, je veux m'assurer d'avoir un financement pour un minimum de 2 ans, idéalement 3. Donc, je ne mets pas un travailleur de rue dans la rue pour 6 mois, 1 an. Ça se fait pas. Même si j'en ai un qui part en maladie ou qui est en absence quelque temps, je ne peux pas engager pour une petite période. Parce que le temps de s'installer dans les milieux, le temps de créer des liens, et la rue est en mouvance. Fait que c'est pas parce que, tu sais, je vais donner un exemple. Moi, je faisais beaucoup les bars ici à Repentigny. Ben, les bars, ils finissaient des fois par fermer. Les personnes qui se tenaient à cet endroit-là s'en allaient ailleurs. Où est-ce qu'ils s'en allaient? Je ne le sais pas. Fait que là, le temps d'y trouver, le temps de voir où est-ce qu'ils se tiennent maintenant. Aussi, tu sais, les populations vieillissent aussi, là. Fait que les jeunes qui se tiennent dans les parcs à 15-16 ans, à un moment donné, à 15-16 ans, ils font d'autres choses de leur vie, fait que là, ils vieillissent un peu. Fait que les jeunes que j'ai rencontrés, mettons, au début de ma carrière à 15 ans, ben 2 ans plus tard, ils fréquentaient plus le parc, là. Ils étaient plus là dans ce parc-là, fait que là, c'était à recommencer. En fait, la partie observation en travail de rue, elle est toujours à recommencer parce qu'il y a toujours des nouveaux milieux, il y a toujours des nouvelles réalités, il y a toujours une nouvelle place intéressante où il y a du monde qui peut se tenir. Fait que c'est toujours à recommencer. Fait que c'est sûr qu'un travailleur de rue qui arrive et qui dit « moi, je veux faire juste 6 mois », c'est de valeur, mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas parce que ça ne donne rien. C'est un coup d'épée dans l'eau.
Merci. Pour vrai, c'est ce que je me disais que c'était long, mais tu sais, 2 ans, là, je pense qu'avec les explications que tu donnes, ça fait tout son sens avec le rythme aussi. Mais là, tu sais, on parle du travail de travailleur de rue. Bon, peut-être qu'on pourrait parler un peu de l'organisme pour lequel tu travailles. Tu sais, il vient de où cet organisme-là? Comment il a été créé? C'est quoi le mandat, la mission?
Ben en fait, le trajet a été créé, son assemblée de fondation, elle est très jeune, le trajet, elle a eu lieu en 2013, fait qu'on n'a même pas 10 ans, en décembre 2013. Fait que, en fait, il est né d'une volonté des partenaires du milieu, les différents organismes qui voulaient avoir un organisme en travail de rue sur leur territoire. Il y en avait déjà eu un par le passé, comme je vous disais au début de ma présentation, mais malheureusement, pour différentes raisons, le financement avait été retiré et l'organisme a dû fermer ses portes. Les partenaires du milieu avaient envie de faire pour neuf, avaient envie d'avoir un tout nouvel organisme avec une nouvelle philosophie. Donc, ils ont créé le trajet. C'est ça que l'assemblée de fondation a eu lieu en décembre 2013. Moi, je suis arrivée en janvier 2014. Et j'ai eu une petite carte blanche très agréable parce que je suis arrivée dans un bureau.
Tout était à faire, dans le fond.
C'est ça. Je suis arrivée dans un bureau vide, donc c'était meubler mon bureau, engager des travailleurs de rue, et à ce moment-là, j'avais du financement pour 2 travailleurs de rue. Fait que j'ai engagé mes premiers travailleurs de rue qui ont commencé sur le terrain en mars 2013. Fait que c'est ça. Fait que ça a commencé comme ça. Dans un petit local du café de rue à Terrebonne, un petit bureau très, très minime, et on essayait de faire ce qu'on pouvait avec ça. Après ça, on a développé un peu.
Est-ce que je t'interromps, oui, juste pour qu'on mentionne le café de rue qui est aussi un autre organisme, là, pas que les gens, oui, croient que un petit resto à quelque part,
non, que ce soit. Là, mais... C'est un organisme pour les jeunes de 18 à 30 ans, en rupture sociale aussi, donc ça fitait bien dans notre mission aussi, ça fitait bien qu'on soit partenaire les 2 organismes, quoique nous, on va plus vieux que 30 ans, nous on est 0,99 ans, mais c'était quand même un endroit intéressant pour commencer. Et quand on a commencé, dès que j'ai engagé les 2 travailleurs de rue, ils étaient très, très attendus. J'ai eu 2 gars pour commencer. Fait que ce qui est intéressant aussi, ils ont bien défriché le terrain, ça a été super agréable. Des gars qui ont été avec moi à peu près 4 ans. Mais rapidement, on s'est rendu compte que ça prenait une fille. Ça prenait une fille dans la rue, ça prenait... Fait que j'avais beau, moi, faire des petits bouts, mais j'avais aussi les tâches administratives à faire. Donc, même si moi, je faisais des petits bouts, par exemple, je vais vous donner un exemple comme ça, il y a une jeune fille qui est venue me voir à un moment donné, qui m'a dit, je les aime bien, tes 2 travailleurs de rue, mais faudrait que j'aille à l'hôpital parce que je voudrais passer la trousse médico-légale et je veux pas y aller avec les gars. J'aimerais ça que tu viennes avec moi. Fait que j'ai réalisé que oui, ça prenait une fille dans mon équipe, c'est clair. J'ai demandé de l'argent au ministère de la Sécurité publique, qui est le même ministère que la police, qui nous aime bien d'ailleurs, les travailleurs de rue, et j'ai réussi à avoir un financement pour avoir une troisième travailleuse de rue. Au départ, c'était rejoindre des filles en violence conjugale, en agression sexuelle et en exploitation sexuelle. Fait qu'au départ, mon projet est écrit comme ça. La travailleuse de rue que j'ai engagée a développé par un concours de circonstances le volet exploitation sexuelle. Rapidement, elle s'est retrouvée dans des milieux où il y avait de la prostitution, où il y avait des filles qui faisaient de la prosto, salon de massage, bord de danseuse, c'est plus difficile à rentrer. On a le seul, d'ailleurs... C'est le seul bord de danseuse, je crois, qui reste dans la Naudière, il est à Terrebonne. mais il est un peu difficile
D'accès.
d'accès. Ouais, fait que on n'est pas encore là, on essaye. Mes travailleurs de rue, au début, y allaient. Un gars qui y allait, mais c'était pas facile. Moi, je suis allé à quelques reprises avec lui, puis c'est vrai que c'est un milieu qui était dur à percer. Très, très fermé, très difficile à percer, puis... Fait que, ben bon. Fait qu'on espère encore réussir à percer ce milieu-là. Fait c'est ça. Fait que j'ai eu ma troisième travailleuse de rue qui a développé ce volet-là. Fait que le financement est devenu exploitation sexuelle, étant donné que c'est ça qu'on a développé. Là, nouvellement, depuis l'an passé, j'ai un financement pour Mascouche, ce que j'avais pas avant. Donc, on est rendu à quatre travailleurs de rue dans notre équipe. Fait que c'est un peu comme ça qu'on a
OK, fait que
développé.
vous élargissez, là.
Oui, on élargit. En fait, pour le moment, on coupe des moulins au complet. J'essaie de consolider ce bout-là. Là, on vient d'avoir un nouveau financement qui me permet d'engager un cinquième travailleur de rue. Fait que c'est sûr qu'on a beaucoup, beaucoup de demandes pour la plaine. Fait qu'il y a des bonnes chances que
Ouais, qui fait partie de
qui
Terrebonne,
fait
mais qui est
partie de
plus
Terrebonne,
éloignée,
mais qui est
ouais.
plus éloignée. Puis c'est sûr que nous, à partir du début, on s'est concentré sur Terrebonne-Centre. Et c'était la demande d'installer du travail de rue et se concentrer sur Terrebonne-Centre. C'est ce qu'on a fait. Mais comme Terrebonne, c'est la fusion de trois municipalités, c'est grand. Fait que c'est sûr qu'il y a des besoins à la Chenecque, qu'il y a des besoins à la Plaine aussi. Fait qu'on commence tranquillement là, à répondre, à être un peu plus présent sur ces territoires-là. Fait que c'est ça. Fait que là, ça grossit de plus en plus. Grossir, ça veut dire beaucoup de financement, donc ça veut dire aussi
C'est ce
beaucoup
que
de
j'avais
travail.
demandé,
Oui.
comment vous vous autofinancez, là? J'imagine qu'il
En
doit y avoir
fait,
une part de subvention du gouvernement, mais hormis ça, est-ce que vous avez d'autres sources?
Ben, en fait, on a quelques autres sources de financement. C'est sûr que moi, quand je vais chercher du financement, j'essaie d'aller chercher un poste. C'est le plan de match, mais on a beaucoup d'à côté. On a Centraide qui nous appuie, Centraide Laurentide. C'est bizarre de Centraide Laurentide, mais la ville de Terrebonne est dans le territoire des Laurentides pour Centraide. On n'a jamais compris la
Ah ouais, des fois les
délimitation,
divisions, ah
les
ouais.
divisions de paroisses, peut-être à une autre époque, là. Fait qu'on a du Centraide qui a augmenté à toutes les années depuis. On est rendu à 20 000. Fait que, qui a augmenté, qu'on a commencé à 8, on est rendu à 20. C'est quand même un beau
Considérable,
bond,
là.
c'est
Oui.
ça. On a aussi plein d'autres petits financements. Il y a la MRC qui nous a financé quelques petits projets. Entre autres, notre formation slash présentation, démonstration. On va l'appeler comme ça, surtout le matériel qu'on distribue. Fait qu'on a monté une petite formation destinée à la fois aux intervenants et à la fois aux personnes qui consomment, qui auraient besoin, donc à la clientèle aussi de certains organismes. Donc, j'ai eu un financement là-dessus de la MRC. Un petit peu de la ville pour un projet de gym qui nous permettait d'amener des personnes qui n'ont pas les moyens d'aller s'entraîner dans un gym. Fait que nous, on peut s'entraîner. Fait que j'ai plein de petites sources de financement qui viennent d'un peu partout comme ça. Là, on vient d'avoir du financement pour la lutte aux opioïdes, on dit comme ça, ou lutte aux surdoses. Fait qu'on vient d'avoir un peu de financement là-dessus, ce qui me permet d'engager l'autre poste aussi. On a un petit financement là, pour rejoindre les communautés culturelles. Fait qu'un petit fonds de tiroir du CIS de la Nadière qui avait un petit peu d'argent là-dessus. Fait que c'est toutes des petites choses comme ça. On essaie de faire aussi des activités de financement. Pendant la pandémie, on a fait un spectacle virtuel. Ça allait de soi que c'était plus difficile d'avoir un spectacle en présentiel. Fait qu'on a quand même été chercher un petit peu d'argent de ce côté-là. Et quotidiennement, on a un fun script. Un fun script qui fonctionne. En fait, le fun script, c'est l'achat de cartes cadeaux en ligne. Et à chaque fois que quelqu'un achète une carte cadeau sous la bannière du trajet, en fait, avec le code du trajet, ça donne une ristourne à l'organisme. Donc, on va chercher
Puis ça, le
quelques
code, en
dollars
quelque
là-dessus.
sorte, tu le sais, ou c'est quand les gens ils vont comme s'inscrire sur le site que là, ils peuvent choisir, mettons, l'organisme avec lequel ils veulent
Je ne sais pas s'ils peuvent choisir l'organisme, mais ils peuvent. En fait, il faut qu'ils sélectionnent le code officiel du trajet s'ils veulent s'occuper, s'ils veulent appuyer le trajet. Je ne sais pas exactement s'il y a la liste complète sur le site là, de tous les organismes qui peuvent être appuyés ou les causes qui peuvent être appuyées. Parce qu'il n'y a pas juste des organismes sur Foursquare, il y a aussi, par exemple, une école des écoles de danse, il y a plein de clubs sociaux, ces choses-là qui vont
Mais
chercher des
pendant, c'est
financements
ça,
avec ça.
juste pendant qu'on en parle,
Oui.
est-ce que le code en question, par exemple, tu le connais ou sinon tu pourras nous donner l'information pour qu'on puisse l'afficher sous la vidéo
Oui.
s'il y a des gens qui sont
Certainement. Oui,
intéressés
c'est avec plaisir.
à vous
Je
faire
vais vous
des dons,
donner
à vous encourager ou
Oui.
quoi que ce soit.
Je vais vous donner le code là-dessus, il n'y a pas de problème.
Fait que voilà, puis sinon, mais c'est ça, j'aimerais qu'on en vienne, tu sais que nous, on aborde, bon, la violence sous différentes, tu sais,
Forme,
angles, ouais.
oui, dans la société en général, puis que l'objectif, c'est justement de rencontrer des gens pour un peu dénoncer puis expliquer le phénomène social qu'est la violence. Donc, la question qu'on a, c'est sûr qu'il y en a. T'sais, je veux
Oui,
dire, il y en a
on se le
partout,
cachera pas, il y
oui.
en a.
OK, donc, par rapport aux manifestations observées de violence, là, comment comment on intervient en tant que travailleur de rue, puis c'est quoi les types de manifestations de violence qu'il y a dans ce milieu-là?
Ben, en fait, c'est une excellente question. La première chose que j'ai envie de répondre qui me vient, c'est que oui, on est témoin. On est témoin, mais en fait, on n'est pas témoin, on se fait beaucoup plus raconter. Raconter, parfois on est témoin, parce que c'est sûr que des fois, le lien est là, il n'y a pas de filtre. Hein? Si le lien est là, fait que ça peut arriver qu'on entende du monde se crier par la tête. Ça peut arriver. Fait que, utiliser plein de mots que je n'aimerais pas ici. Fait que vous pouvez rapidement
Ouais, des
identifier.
insultes, des
Fait que oui,
injures,
ça
là.
arrive. Ça arrive. Les personnes sont souvent en état de consommation aussi. Fait que quand ça part, des fois, ça délire un peu, je vous dirais. Fait que c'est sûr que on s'en fait raconter beaucoup, tu sais, de situations de violence. Des fois, tu sais, j'ai envie de vous partager quelques exemples. Des fois, on est un peu témoin de certaines violences. Par exemple, moi, je faisais beaucoup les bars en travail de rue. Et à un moment donné, il y avait un gérant de bar qui était très, je dirais, très déplacé envers ses barmaids, ses serveuses. Et c'était des tapes ses fesses et un peu les traiter, les rabaisser. Je me souviens que j'étais en colère quand j'ai été témoin de ça et j'avais juste envie d'aller parler au gérant en question. Je me suis rassis, j'ai respiré parce que j'ai pris un pas de recul, fait que c'est ça, et j'ai parlé à mon boss à l'époque, et mon boss à l'époque m'a dit, tu peux pas faire ça, Geneviève, ce que tu peux faire, c'est d'outiller les filles. C'est d'outiller les filles pour qu'elles soient capables de se défendre, pour qu'elles soient capables de se nommer, puis de le faire arrêter, en fait.
Ne serait-ce que comprendre que c'est
Oui.
pas acceptable, c'est dans certains cas, là,
C'est
t'sais.
ça. Fait que c'est le seul pouvoir que j'avais de continuer à appuyer les filles, à les écouter. À chaque fois que je débarquais, s'il y avait besoin de m'en parler, j'étais là. Bah. Fait que c'est ça. Fait que c'est le seul pouvoir que j'avais à ce moment-là. Et j'ai d'autres exemples aussi de couples que je sais où il y avait de la violence. Violence conjugale, mais aussi, je dirais, de violence de part et d'autre, là. Fait que j'attendais en fait le moment où, si on parle de violence conjugale, où la fille est prête à quitter. Puis à ce moment-là, il y avait une référence qui pouvait se faire en hébergement. Mais tu sais, on est toujours dans le respect du rythme. Hein, je vous dis. Et ça fait beaucoup partie de notre impuissance parce que des fois, on voudrait sortir de là, les sortir de là rapidement, les sortir d'une situation, que ce soit avec leur conjoint, leur patron, leur peu importe. Mais on n'a pas de pouvoir. Fait qu'on respecte le rythme. On respecte à
Ah,
quel moment
j'imagine
ils
que
ont le
c'est
goût de sortir.
confrontant par moment, t'sais, autant
Très.
l'exemple que tu as nommé tout
Ouais.
à l'heure, d'être témoin d'un patron, d'un gérant, peu importe, là, qui est inadéquat. Autant au niveau de justement, tu sais, le rythme qui parfois peut nous sembler pour nous de l'extérieur
Une
Trop
éternité.
lent, ouais, c'est ça, une
Ouais,
éternité.
l'éternité, oui.
Mais est-ce que c'est ça? T'sais, oui, il y a le volet sensibilisation, présence, lien de confiance, référencement, t'sais, aux besoins, puis si la volonté est là. Mais est-ce que tu as déjà agi, par exemple, comme une forme de médiatrice, là, t'sais? Mettons, ça a-tu déjà arrivé que tu sois présente pendant un événement au sein d'un couple, là,
Ça peut
puis que.
arriver. Oui, ça peut arriver. C'est arrivé à quelques reprises d'ailleurs que oui, il y avait des couples qui chicanaient puis que j'essayais d'un peu
Tempéré.
jouer à la médiatrice puis tempérer les choses. Ben, ça arrive dans la confidence, tu sais. Et est-ce que, tu sais, j'ai envie de dire souvent quand ça devient trop, je dirais, parce que des fois on est dans une position entre l'arbre et l'écorce, hein, on est en lien avec les deux. Autant, tu sais, dans un couple, on est en lien avec les deux du couple. C'est sûr qu'il y a souvent, ben là, tu prends plus pour un que pour l'autre, tu sais. Tu prends plus pour lui, tu prends pas pour moi, tu prends, tu sais, fait qu'il y a beaucoup il y a beaucoup de tentatives de nous impliquer. Puis à un moment donné,
Genre,
c'est dommage.
dis là, qui est pas correct ou
C'est
qu'est-ce pas
ça, c'est
correct
parti,
ou
là.
ouais.
C'est ça. Dis qu'il est pas fin, puis dis, mais on peut pas embarquer là-dedans. Fait que c'est très difficile. Souvent, ce qu'on fait, l'importance d'avoir une équipe avec nous qui nous appuie. Souvent, ce qu'on fait, c'est quand il y a un conflit comme ça dans un couple, entre deux personnes qu'on accompagne, on va essayer de référer un des deux à quelqu'un de
Un
l'équipe, un
collègue,
autre
un gars.
travailleur de rue, parce que c'est très difficile. Moi, j'ai déjà, par exemple, des accusations d'agression sexuelle et demande d'accompagnement en cours des deux. Je peux pas accompagner les deux. Ça se fait pas. C'est impossible. C'est ça. Des fois, ça peut arriver, tu sais, qu'il y a des accusations qui sont portées et on a souvent si on est en lien avec les deux personnes, on a les deux demandes d'accompagnement en cours. Et là, à ce moment-là, il faut choisir qui on accompagne, parce qu'on ne peut pas accompagner les deux, on ne peut pas se séparer en deux. Fait que souvent, c'est là que le collègue devient important, fait que le collègue peut accompagner. En travail de rue, ce qu'on dit souvent, c'est quand on a un choix à faire entre la victime et
Le supposé
le supposé
agresseur,
agresseur, en travail de rue, on va choisir d'accompagner souvent l'agresseur. Et je vais vous expliquer pourquoi, parce qu'il y a beaucoup de monde peuvent accompagner la victime. Fait que souvent, c'est un choix déchirant
ouais, je
et des
comprends.
fois, ça, c'est pas évident, mais ça fait partie de, tu sais,
Comme si leur option pour eux était, pour eux et elles, là, mais était plus restreinte, là.
oui, c'est ça.
Fait que
Il y a moins de
comparative,
ressources
ouais, fait
autour
que là, c'est pour ça que vous dites, c'est comme un
d'eux.
moindre mal dans le sens que, en sachant que pour les victimes, il y a davantage, là, d'organismes qui peuvent les supporter puis leur venir en
C'est
aide, que
ça.
ce soit maison d'hébergement, les CALACS en agression sexuelle, les CAVAC, etc. Fait que, ouais, je comprends.
C'est pour ça souvent qu'on fait le choix d'accompagner l'agresseur ou le présumé agresseur plutôt que la victime, ce qui n'est pas toujours facile parce que, petite anecdote comme ça, j'ai envie de vous raconter. Moi, quand j'ai commencé à faire du travail de rue, je sortais de mon dernier stage en éducation spécialisée et je l'avais fait au CALACS. Donc, c'est sûr que j'étais teintée de l'approche du CALACS. J'étais teintée de l'agression sexuelle, de ce que fait étrangement. Ben, je dirais étrangement, mais en même temps, ça s'est arrivé comme ça. J'ai accompagné des agresseurs en travail de rue un des agresseurs que j'ai accompagné, je lui ai fait comprendre son geste en utilisant l'approche du CALACS. J'avais un jeune qui avait fait des centres de jeunesse puis qui avait été accusé d'agression sexuelle à l'adolescence et qui ne comprenait pas son geste. En me racontant un petit bout de sa vie avec le lien que j'avais avec lui, c'est sûr que c'était difficile parce que ça allait dans les confidences, là. Il me l'a dit, qu'est-ce qu'il a fait. Et à un moment donné, je lui ai tout simplement nommé, dans tout ce que tu me racontes de ta vie, tu n'as jamais eu de pouvoir. On t'a toujours enlevé ton pouvoir, on t'a toujours tassé, on t'a toujours mis de côté. Est-ce que ça se pourrait que tu aies décidé d'agresser sexuellement parce que tu voulais reprendre ton pouvoir? Parce que moi, c'est ça que j'avais appris au CANAX, que c'était une prise de pouvoir. Et je pense qu'à ce moment-là, il a compris son geste. Il a compris, puis il m'a regardé, il dit, Johnny, il dit, j'y reviens pas parce que c'est la première fois que je le comprends comme ça, malgré le fait que j'ai passé du temps avec des psychologues, des thérapeutes, des sexologues en centre jeunesse, tout ça. Il n'avait jamais compris son geste de cette façon-là. Et des fois, de mélanger les approches, de faire de... Et je pense que ça n'aurait pas été possible s'il n'y avait pas eu le lien de confiance qu'on a au travail de rue. Fait que j'ai envie d'ajouter que c'est clair que en travail de rue, on a le privilège d'avoir des liens significatifs, mais aussi le privilège d'avoir des confidences. Et les confidences, ils peuvent venir autant des violentés que des violents, je vais le dire comme ça. Fait que c'est sûr que ça fait partie de notre réalité d'être ben pas nécessairement d'être toujours témoin, mais d'avoir beaucoup de confidence par rapport à ça. Fait que c'est
Ça,
pas toujours facile, je
ça,
dirais.
sans rentrer dans les détails ou sans nuire à la confidentialité, est-ce que toi, tu as en tête, mettons, une situation qui était comme la plus confrontante pour toi à travers ton travail?
Oui, j'en ai une qui était extrêmement confrontante. J'ai un gars que j'accompagnais depuis longtemps, tu sais, que j'ai accompagné parce qu'il était dans la rue, parce que, tu sais, il y a eu plein de choses, et à un moment donné, accompagnement en cours. Mais le lien était très fort. C'est un des premiers que j'ai rencontré. Et dans ses accusations en cours, parce que oui, il y avait, j'appelle ça l'ensemble de son œuvre, là, il y avait trafic de dope, il y avait vente de dope, il y avait plein de choses, tu sais. Mais puis je l'avais accompagné pour ces choses-là, mais là, il arrive une accusation d'agression sexuelle sur sa sœur, je crois. Fait que ce qui a été difficile, c'est que dans tout l'accompagnement, à un moment donné, j'ai eu un accompagnement chez un avocat. Et l'avocat a lu le plaidoyer de la victime devant moi. Je suis sortie de cette rencontre-là et j'avais envie de sacrer hurler après. Et je peux pas faire ça, c'est ça. Fait que la seule réaction que j'ai eue à ce moment-là, ça a été de lui dire, je vais être là, je vais t'accompagner, mais jamais je pourrai
Cautionner,
endosser,
ouais.
cautionner ton geste. Fait que c'est ça. Fait que j'étais là, pareil, mais ça a été le bout le plus difficile je dirais, dans ma carrière de TR, d'avoir à entendre un plaidoyer. Puis c'est ça. Fait que ça a été, c'est sûr qu'il y a toute une partie de oui, j'ai choisi, je l'accompagne, je suis là, mais ça a été quand même,
Ouais,
ça a
ben
été
c'est
quand même difficile puis
confrontant,
confrontant.
ouais,
C'est ça. Fait
on a toutes
que,
des valeurs, peu importe,
oui.
même si on est en mesure de démontrer de l'ouverture, de l'empathie, de la compréhension, ça reste qu'on a chacune notre ligne de pensée ou nos valeurs qui guident nos vies. Fait que c'est sûr, quand ça vient vraiment heurter ça de plein fouet, j'imagine que c'est ça, ça doit être très, très,
C'est
très
très
confrontant,
c'est très
ouais.
confrontant.
On reste des humains, hein? En
Oui,
arrière
c'est
de
ça, on reste des
l'intervenante,
humains.
là, il y a un humain, puis cet
Ouais.
humain-là, ben, il est sensible aussi à la réalité qu'il entend.
C'est ça. C'est pas toujours évident, mais en même temps, ça fait partie des choses, des expériences que j'ai eues en travail de rue, que je ne regrette pas, mais que ça a fait partie de mon parcours en travail de rue. Il y a plein d'autres petites situations que j'ai vécu, que j'ai regardé aller, que j'ai essayé de sensibiliser. Si on parle juste au niveau du langage, j'ai envie de vous partager une petite anecdote. Moi, quand j'ai commencé à faire du travail de rue, j'étais en lien beaucoup avec des chanteurs hip-hop. Ça a donné de même que je sois en lien avec beaucoup de chanteurs hip-hop et j'ai eu des discussions sur les paroles qu'ils utilisaient dans leurs chansons. Et malgré le fait que, tu sais, malgré le fait qu'ils vont bien écrire ce qu'ils veulent là, dans leurs chansons, je me permettais, dans le lien d'aller jusqu'à dire, ben, ce mot-là que tu as utilisé dans ta chanson, ben, je l'aime pas. Puis, je le sais dans quel contexte tu l'as écrit, parce que souvent, il m'expliquait le contexte, puis l'histoire de la chanson, tout ça. T'sais, le gars s'est fait tromper, donc il traite sa blonde d'un paquet d'affaires. Mais je dis même à ça, même si tes choix de mots dans ta chanson me plaît pas. T'sais. Fait que dans le lien, je me suis même permis d'aller jusque-là, dans dans ce que je pouvais nommer à mes liens. Fait que, tu sais, au bout de la ligne, il change ou il change pas la chanson, mais tu sais, je me suis quand même permis de le renommer. Fait que.
Ça fait un lien avec l'épisode justement qu'on a fait sur les relations égalitaires quand on a parlé de confiance, puis qu'on disait que dans une relation de confiance, il y a un moment où est-ce que tu peux te permettre de dire à l'autre
Ouais, pratiquement tout, là,
oui.
t'sais, tant que c'est
C'est
dit dans
ça.
le respect,
Oui, puis
évidemment,
c'est
là,
ça, puis que
ça.
ton objectif, c'est pas nécessairement que l'autre change son idée, son opinion, mais bien que
Non.
la personne reçoive. Puis c'est sûr de le dire, c'est de le nommer, puis peut-être que ça fera un chemin, puis que la personne se remettra en question par rapport à
Par
ça,
rapport à ça.
mais ça fait un beau lien quand
Effectivement.
même.
J'aimerais ça juste, tu sais,
Oui.
là, moi, j'avais noté là, des petits éléments que, tu sais, qu'on peut un peu deviner, là, sur ce serait quoi les facteurs, tu sais, des facteurs communs que peut-être que tu as pu observer à travers ta pratique sur qu'est-ce qui amène certaines personnes à être justement en rupture sociale, tu sais, dans le sens de facteurs communs, exemple, milieu de famille très défavorisé, peu importe, là, mais ce serait quoi qui revient le plus souvent, là?
Ben, ce qui revient souvent, en fait, j'ai pas envie d'embarquer dans des situations
Stéréotype.
de pauvreté ou non, parce que j'ai quand même été à Repentigny et des jeunes qui étaient issus de familles aisées, j'en ai vu. Ce que j'ai envie de dire, je pense que ce qu'il y avait comme dénominateur commun, c'est la rupture au niveau de la famille, l'éloignement au niveau de la famille, le clash des valeurs. Au niveau de la famille. Puis même si j'ai eu des jeunes qui étaient un peu plus aisés, ben souvent le clash de valeurs était très présent. Et être aisé veut peut-être aussi dire travailler beaucoup pour justement être en mesure de payer. Donc, le dénominateur commun que j'ai vu ici, c'est beaucoup des jeunes qui étaient éloignés de leurs parents, éloignés de leur famille. Fait que ça a fait partie de ce que j'ai pu observer.
Fait que souvent, dans le fond, ce qui, encore une fois, c'est pas une généralité pour tous, mais le facteur que tu observes davantage, c'est qu'avant que ça vienne à une rupture sociale, c'est très souvent une rupture familiale qui est comme le déclencheur, là, de base.
Souvent. Puis même si j'ai vu, parce que tu sais, dans le cadre de la pratique, on rencontre aussi des parents. Souvent, on est en lien avec des parents. Et j'ai côtoyé des parents extraordinaires. Mais il y a un moment donné, il y a un point de rupture, je vais l'appeler comme ça, entre les valeurs du jeune et les valeurs du parent. Et il y a quelque chose qui se brise. Tu sais, parce que le jeune consomme, puis que là, ça fonctionne plus avec les valeurs des parents. Tu sais, il y a plein de choses qui sont possibles, mais il y a souvent un point de rupture, même si, tu sais, j'ai envie de dire, même si les parents sont bons, même si les parents font de leur mieux dans l'éducation de ces jeunes-là, des fois,
Non,
il y a
mais
une rupture qui se crée d'un part et d'autre.
effectivement, puis l'objectif, c'est pas de trouver des coupables à tout ça. C'est ça, plutôt de plus discerner ce qui peut amener là, à vivre ce type de difficulté-là. Puis j'aimerais ça aussi que, ben pas j'aimerais ça, mais est-ce que tu crois plutôt que, bon, on a un petit peu aborder différentes problématiques, que ce soit violence conjugale, que ce soit justement itinérance, que ce soit toxicomanie, à la limite problématiques de santé mentale et tout. Encore une fois, je me réfère à ton expérience professionnelle. Est-ce que tu vois aussi un lien entre toutes ces difficultés-là, ces problématiques-là, et des conséquences de la violence? T'sais, parce que des fois, on dit que de vivre la violence, ça amène des conséquences. Et pour travailler là-dedans, Martine et moi
Oui.
aussi, t'sais, ça fait partie des conséquences qu'on observe. Puis en même temps, de se retrouver dans ces problématiques-là où je vais dire le terme multiproblématique, quand il y a vraiment plusieurs de ces éléments qui sont rassemblés ensemble, peuvent aussi être une forme de cause à revivre.
Puis dis-nous, dans notre milieu, tu sais, tout ce qui est consommation, itinérance, puis santé mentale, c'est des conséquences de la violence, là,
Évidemment.
puis des grosses, tu
Oui, évidemment.
sais. Ça peut aller jusqu'à un point quasiment de non-retour à certains moments. Donc, dans le milieu du travail de rue, est-ce qu'on voit cette incidence-là aussi?
On le voit aussi, on le voit aussi. C'est sûr que tu sais, je le vois. Je vais dire, je le vois un peu plus dans un autre emploi que j'ai, qui est aussi en violence conjugale. Mais en travail de rue, je dirais que oui, on les voit, les conséquences. En fait, ce qu'on voit beaucoup, c'est que. Comment je pourrais vous dire? En fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas une seule conséquence. J'ai envie de dire que la personne qui est victime de violence vit plein de choses. C'est difficile de la catégoriser et de dire qu'elle vit juste de la violence. Non, elle vit pas juste de la violence. Elle a aussi peut-être une problématique de santé mentale au niveau d'une dépression. Elle a aussi peut-être une problématique de consommation. Il y a aussi probablement une rupture avec sa famille. Il y a des difficultés au niveau
Ben
relationnel. Il y a plein de choses. Fait que j'ai envie de dire que c'est l'ensemble des personnes qu'on rencontre ont un ensemble de difficultés, de problématiques, et la violence fait partie de ce qu'ils peuvent vivre. Fait que, est-ce que c'est une conséquence? Est-ce que c'est un préalable? Est-ce que je pourrais, tu sais, j'ai envie de dire que oui, l'ensemble de ces problématiques-là peuvent être des conséquences, mais l'ensemble de ces problématiques-là peuvent être là avant aussi. Avant,
Comme une cause, en
comme
fait.
une cause. Oui, ça peut être comme une cause aussi. Je pense que
Ouais, c'est
ça peut
ça,
être avant ou après,
ouais.
là, c'est l'œuf ou la poule, là,
Ouais.
mais
Une conséquence ou une cause à effet.
c'est ça. C'est ce que j'ai envie de dire.
OK. Fait que en terminant, t'sais, j'aimerais savoir si toi, de ton côté, il y a autre chose qu'on n'a pas pensé aborder avec toi, puis que toi, tu tiendrais à parler, à nous mentionner. Sinon, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, tu pourras nous envoyer les liens pour supporter votre organisme. Donc, c'est ça. Est-ce que toi, il y a quelque chose que j'oublie, puis qui...
En fait, ce que j'ai envie de dire au niveau du travail de rue que j'ai peut-être pas dit, c'est que les travailleurs de rue, on n'est rien sans nos partenaires. J'ai envie de dire ça. Parce que nous, on n'est pas des experts en rien. Fait qu'on côtoie au quotidien une multitude de problématiques, mais on n'est pas des experts. Fait qu'on a besoin de maisons d'hébergement en violence conjugale pour référer. On a besoin d'organismes en santé mentale. On a besoin d'organismes qui peuvent accompagner une femme en agression sexuelle comme les CALACS. En fait, on a besoin de l'ensemble des organismes disponibles dans la communauté parce que nous, on est présents, oui, mais à partir du moment où il y a, j'ai envie de dire, il y a un désir de changement, ça nous prend un organisme pour répondre à ce désir de changement-là. C'est un peu le message que j'ai envie de passer. Fait que c'est hyper important de les connaître, nos partenaires, nous, on fait de la référence personnalisée. Fait qu'on, quand on réfère, au lieu de référer à un organisme, on réfère aux personnes.
On aime bien, nous, on aime, moi, en tant qu'intervenante, j'aime bien ça quand c'est un autre intervenant qui m'appelle avec la personne, puis qu'on prend le temps de se parler, puis qu'il y a un lien qui s'établit, là. Je trouve que ça facilite après ça
Puis je ne
l'intervention.
sais pas si tu es d'accord avec moi, mais tu sais, à la lumière de tout ce que tu nous as raconté aujourd'hui, qui était vraiment, vraiment très intéressant, est-ce que, tu sais, parce que moi, j'ai comme l'impression que c'est comme si les travailleurs de rue sont à la fois le premier step qui pourrait amener les personnes en rupture sociale à vouloir, là, c'est peut-être pas le bon mot, mais réintégrer la société, entre guillemets. Puis en même temps, le dernier filet de sécurité aussi, tu sais, à l'inverse, pour des personnes qui sont vraiment pas dans l'optique de réintégrer la société, là. Fait que c'est comme le pas vers l'avant ou le dernier recours aussi, le filet de sécurité qui reste, là.
Ben en fait, on dit souvent qu'on est le dernier filet de sécurité. On essaie, comment je pourrais dire ça? Je pense que de plus en plus, on se retrouve en lien avec des personnes. Puis je dis en lien, mais en même temps, c'est une référence d'eux. Souvent, on se retrouve avec une personne qu'on ne sait plus où envoyer, souvent, le réflexe naturel, c'est de les envoyer vers les travailleurs de rue. Fait que, on devient la dernière ligne, mais on devient la dernière ligne pour un, j'ai envie de dire ça, pour un système qui ne convient pas nécessairement aux personnes qu'on rencontre. Et on devient la première ligne pour les personnes qui sont pas en contact avec le système, qui sont en rupture, qui ne croient pas au milieu de services sociaux, au milieu de la santé, tout ça, pour plein de raisons, je dirais. Fait que c'est ça. Fait qu'on est à la fois la première ligne et à la fois le dernier recours. On va le dire comme ça. Fait que ça fait partie de notre réalité. C'est sûr que nous, on essaie le plus possible de, comment je pourrais dire ça, de s'arranger pour que notre personne qu'on accompagne fitte en quelque part. Et c'est ça, on essaie le plus possible, ce qui n'est pas toujours le cas, parce que les services sont souvent adaptés selon une seule problématique. Et la personne que nous, on accompagne vit plein de problématiques. Donc, vit comme on disait tantôt, vit de la santé mentale, vit de la toxicomanie, vit de la violence conjugale. Est-ce qu'on la réfère vers c'est quoi qui est le plus important? Est-ce qu'on la réfère vers une sécurité au niveau de la violence? Est-ce qu'on la réfère vers un organisme toxico pour qu'elle diminue sa consommation? Est-ce qu'on la réfère vers un organisme en santé mentale? Souvent, c'est le beau casse-tête qu'on a parce que ça peut pas tout être en même temps.
Mais
C'est ça le problème.
juste en terminant, c'est ça, là, dans le fond, d'où l'importance de, tu sais, vu qu'il y a plusieurs problématiques, c'est multidimensionnel, puis d'où l'importance du partenariat entre les différents organismes, parce qu'ils ont chacun, chacune, leur mission propre, puis c'est ça, ça évite de parfois, justement, être obligé de faire affaire avec plusieurs organismes, parce que là, un organisme répond à tel besoin, un autre, un tel. Donc, fait que
C'est ça.
merci infiniment pour,
Plaisir. Pour ce
ouais,
moment-là,
pour ta venue,
c'était
les informations,
intéressant.
enrichissant, ouais.
Oui, je pense que ça va avoir éclairé beaucoup de monde sur c'est quoi le travail de rue parce que c'est pas tout le monde qui connaît ça. Ça donne envie justement de peut-être être plus attentif autour de nous, de voir, tu sais, que c'est pas parce qu'on voit pas les intervenants qu'ils ne sont pas présents pour les gens. Puis, ben écoute, c'est vraiment apprécié d'avoir accepté notre
Puis
invitation.
d'analyser, tu sais, la violence sous un autre angle, mais que, comme on a vu au fil de l'échange, il y a quand même plusieurs points communs, puis des points que, tu sais, qu'on observe, là, peu importe le milieu pour lequel on travaille, là. Donc, voilà. La semaine prochaine, Martine, dans le fond, on réserve un petit spécial qu'on annoncera en début
Absolument.
du prochain épisode. Sinon, on nous suit où exactement?
Ben, vous pouvez nous suivre sur YouTube, Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. On est là. Partagez, likez, followez. On vous aime. Aimez-nous un petit peu, s'il vous plaît. Sur ce,
Prenez soin de vous.
à la semaine prochaine.
Bye.